Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est en fait la deuxième partie de l'interview avec Dan Gagnon. Donc si tu n'as pas écouté la première, je t'invite à le faire. Et si c'est déjà fait, profite de l'épisode. Il est cool. Ouais, moi j'ai bien aimé le faire. Je crois que ça s'entend parce que je ris beaucoup. Bonne écoute.
Je vais jamais arriver à poser toutes les questions du coup. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais te poser des questions courtes. Avec des réponses courtes. On va essayer.
Parfait. On fait un mode rafale. Mais moi, tu sais quoi, on va rattraper. Envoie-moi ça. Je t'envoie ça en rafale.
Ça marche.
Je suis chaud, là.
Tes parents et ton entourage, ils ont réagi comment au fait que tu fasses de la scène?
Très bien. Ils savaient que j'avais envie de le faire. Ils étaient contents. Ma mère a dit un des trucs que je trouvais le plus marrant quand elle est venue me voir en Belgique. Elle a dit non, c'est bien ce que tu fais, mais si tu veux venir en faire au Québec, il va falloir que tu continues de t'entraîner. Ce qui est humiliant pour tellement de gens.
J'ai eu un deuxième truc humiliant. C'est beau.
J'ai compris que c'est ça que tu voulais. Donc j'en ai en stock. Je vais t'en envoyer tant que tu veux.
Ça marche. Tu as fait le Cirque Royal avec ton premier spectacle. C'est quoi la sensation de faire le Cirque Royal?
C'est absolument magique. Faites-le. Ne le faites pas comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire après-midi, j'étais encore en train d'essayer d'apprendre mon texte. Faites-le mieux, mais c'est incroyable. Tu sais, tu penses qu'à partir d'un certain nombre de spectateurs, ça fait plus de différence, mais c'est faux. Tu les sens, mais tous. Et avoir 2000 personnes qui rigolent à une de tes blagues, c'est incroyable.
Quand même pas celle-là que tu places dans ta meilleure scène quand on te parle de la meilleure scène.
Non, parce que j'ai une mini déception avec les cirques royaux, mes deux dates au Cirque Royal. La première, c'était un événement. Et donc, il y avait un show d'adrénaline qui était exceptionnel. Mais c'est un événement, pas dans le sens que mon show, c'est un événement, mais on l'avait créé comme un événement, le remplir en 50 jours à 10 euros la place. Il y avait énormément de presse. Mes parents étaient venus du Québec. Là. On n'avait jamais autant parlé de moi. Il y avait une fébrilité. On était sold out quelques jours avant. C'était un moment, vraiment. Il s'est passé quelque chose à cette période-là qui était magique pour moi. Mais j'étais pas prêt à l'apprécier dans le sens que j'avais pas de conscience de ce que c'était faire des scènes, hein, puisque c'était vaguement ma troisième à vie, là, en exagérant à peine. Donc j'ai pas pu en profiter autant que j'aurais pu si j'avais fait ça autrement. Et la deuxième fois, c'était pour la captation de mon deuxième spectacle, d'ailleurs. On a beaucoup plus galéré à remplir et donc techniquement, c'est pas 2000, c'est 1008, je crois, là, à peu de choses près. Et c'était au moment de la tournée pirate. Donc les gens payaient après. Et ce qui en soi est une bonne idée la plupart du temps. Sauf si le show tombe le premier samedi de beau temps en mai, où sur les 1600 réservations, il y en a 1000 qui sont pas venus.
Oh.
Donc, on a réussi à remplir le bas. Donc, très bien. Tu sais, 600 personnes, c'est quand même beaucoup de monde qui rigole. Mais j'ai pas... Puis c'était la même date, genre 3 ans, 4 ans. Je me souviens plus, jour pour jour. Le hasard du calendrier totalement. Et je me dis, oh, OK, maintenant je suis prêt. Là, je suis en fin de tournée. Je connais le show sur le bout de mes doigts. Je vais m'amuser. Ça va être agréable. En plus, c'est une captation. Je suis chaud. Mais finalement, il n'y a pas eu ce truc-là, donc c'était un peu genre en demi-teinte, je dirais. S'il y avait eu l'effet du premier au deuxième, ça serait certainement mes meilleurs souvenirs à vie. Mais pour cette raison-là, voilà. Et je ne suis pas à plaindre, hein. J'ai de la chance, mais c'est... Donc voilà. Mon Cirque Royal n'était pas à la hauteur de mes attentes.
Quelqu'un qui se plaint. Ah, mes chaussures en diamant sont trop scellées.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça.
Et donc, parallèlement à ça, tu avais aussi commencé un podcast qui s'appelait Dan Gagnon gratuitement, où t'as interviewé pas mal d'humoristes comme Cody, t'as interviewé, d'ailleurs c'est mon épisode préféré de la série, c'est celui avec Philippe Geluck.
C'est gentil.
J'ai adoré cet épisode parce que je connaissais peu de choses sur lui et j'ai découvert ça et je crois que j'ai passé ma soirée à raconter tout ce qui s'est passé dans l'épisode à ma copine. Et donc on revient à ce que je disais, la pauvre, de me supporter. Mais si elle écoute cet épisode, merci de me supporter.
Ouais, et je crois qu'elle va te dire qu'elle écoute cet épisode juste pour pas que tu lui racontes.
Sûrement le faire dès que j'aurai fini d'enregistrer.
Évidemment.
Alors, c'était venu d'où cette envie d'interviewer ces gens-là?
Mark Maron. tout simplement. Je voulais faire des podcasts parce que reprendre un truc que Fanny m'a dit Fanny Ruet dans son podcast Les gens qui doutent. T'en as pas marre de faire des choses quand tout le monde s'en fout et arrêter quand ça commence à être populaire? C'était dans tout à fait cette lignée-là, mais j'aimais beaucoup les interviews d'humoristes parce que mon premier projet avec ça, c'était les humoristes, dès qu'on les invite à quelque part, ils doivent essayer d'être drôles ou ils ont le réflexe d'essayer d'être drôles. Mais il y a aussi une réflexion derrière ce truc-là. Donc, qu'est-ce qu'un humoriste raconte quand il n'y a pas la pression d'essayer d'être marrant toutes les deux secondes? Et c'était la logique. Ça en est devenu un peu un cliché aujourd'hui de l'humoriste qui se prend pour un philosophe quand il est dans un podcast. Là. Mais donc j'ai commencé en 2011 et ça me permettait d'avoir des discussions et un peu pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi ce côté-là de moi, j'adore ça, parler d'humour. Et donc, c'est une occasion de parler avec des gens à qui je parlerais peut-être pas si j'avais pas de podcast. Donc, yay! Faisons des podcasts.
Je comprends tellement parce que c'est pour ça que je fais le podcast aussi. C'est juste parler d'humour, c'est ce que je préfère après l'humour, je crois. C'est juste de parler de la première chose que j'adore, quoi.
Ouais, c'est ça. Et donc, t'as des discussions avec des gens que tu trouves intéressants sur un sujet que tu trouves intéressant et tu dis à quel autre moment est-ce que tu vas prendre une heure pour parler d'humour avec quelqu'un? Viens, on va boire un verre, on va parler d'humour. Entre humoristes, on le fait, mais t'as pas nécessairement le réflexe de noter dans ton agenda, parlons d'humour pendant une heure ou deux avec cette personne-là. Et ce serait weird de contacter des gens que tu connais peu, comme Philippe Gueluc, pour lui dire, allons boire un verre et parlons d'humour. Et si tu mets un micro entre les deux, ça arrête d'être weird. Et je fais, putain, mais c'est le cheat code ultime de la comédie, quoi. J'ai des masterclass de gens que j'aime bien, gratuitement. Et puis, non seulement c'est gratuit, mais c'est moi qui rechoppe les bénéfices parce qu'on écoute en me disant, elle était géniale ton interview. Et tu fais, mais putain, mais oui, tout le temps. Merci.
À fond. Mais je comprends tellement parce que moi, une des raisons principales qui fait que j'ai fait le podcast, c'est, je pense qu'on s'était parlé une fois à une scène d'humour un petit peu avant de monter sur scène. On s'était parlé genre une demi-heure, 45 minutes d'humour avant de monter sur scène. Et moi, je suis quelqu'un de ultra stressé avant de monter sur scène. Donc d'habitude, je ne sais pas parler. Et là, je crois que là, on m'a dit, ça va commencer. J'ai fait, ah déjà, mais j'étais en train de parler d'humour. Ça se passait bien.
Est-ce que c'était au Comedy Club?
Non, c'était, t'as joué ton spectacle complet. On était en première partie. C'était à Binche. C'était les scènes de Moumou, je crois que ça s'appelait. Dans une petite salle.
Oui. Oui, super gars. Il est top, ça paye. Il est fan d'humour aussi. Puis à un moment donné, il dit, tu sais quoi? Je suis fan d'humour. Fuck it. Je vais créer ma scène d'humour. Et donc, il avait organisé ça. Là. Oui, je me souviens. C'était super bien passé en plus.
C'était vraiment chouette.
J'ai un bon souvenir cette soirée.
J'ai un super bon souvenir de la soirée parce que ça s'est bien passé. Et de parler d'humour avec quelqu'un, en plus que j'adore ce que tu fais, du coup, j'étais encore plus content de te parler. Je pouvais parler d'humour québécois avec quelqu'un, ce qui est très rare dans ma vie quotidienne.
Oui.
Et du coup, j'étais trop content. Et je te dis, j'ai oublié que la scène allait commencer alors que d'habitude, je vais vomir. Donc là, ça me changeait tellement. Quand j'ai écouté ton podcast, je me suis dit, il faut que je fasse ça, que j'interviewe des gens pour parler d'humour, et d'office, il faut que j'invite Dan dans le podcast, quoi.
Et c'est super drôle pour moi maintenant, parce que quand j'ai commencé, il y a toujours une espèce de... On va rendre ça genre... Il y a une espèce de fantasme et de romantisme autour des balbutiements de quoi que ce soit. Ça, les débuts de la comédie, les débuts du stand-up aux États-Unis, les débuts... Mais moi, le début du stand-up en Belgique, je l'ai vécu. J'étais là. Et il y avait rien de glamour, rien de romantique dans le terme vraiment littéraire. Là. C'était vraiment des gens qui essayaient d'intéresser un public à un type d'humour dont il n'est absolument pas friand à la base. Et aujourd'hui, quand je fais des podcasts comme le tien, quand je vais parler avec les gens du What the Fun ou des choses comme ça, quand je vais refaire des... Je suis venu en février jouer et je vais refaire des scènes, on me reparle en disant « Ah, mais c'était là au début, t'as un peu importé telle chose. » Et je me dis, ça sonne tellement plus cool dans vos interviews et dans vos présentations que la manière parce que je suis pas tout seul évidemment là, dont on a pu le vivre au début, nous on savait pas si ça allait fonctionner. Et tu sais, il y a un côté de dire, ah mais vous aviez de la chance au début, tout était à faire. Fait oui, mais on savait pas si ça allait être fait là. On espérait très fort, mais il y avait des grandes possibilités que rien n'allait se passer quoi. Et aujourd'hui on voit ce que c'est et c'est cool, mais c'est drôle de entendre des gens te raconter des débuts que t'as vécu avec un autre mood vraiment et c'est super chouette à faire. Je trouve que c'est une des raisons qui fait que j'aime bien de faire des podcasts, c'est pour entendre comment les gens perçoivent ce qu'on a vécu en live.
Ok, je suis en train de t'écouter comme quand j'écoute les podcasts, j'oublie que je dois poser des questions derrière. Et du coup, j'étais là.
T'as dit, c'est à qui de parler là? Quoi, l'animateur, il lance pas là?
C'est qui l'animateur de ce
Qu'est-ce
podcast?
Qu'est-ce qu'il fout?
Ah zut, c'est moi.
Putain, c'est ça.
Merde. Si tu devais inviter quelqu'un dans ton podcast aujourd'hui, si tu avais continué Dan Gagnon gratuitement, qui est-ce que tu inviterais, à qui tu voudrais poser des questions comme ça?
Alexandre Astier.
Alexandre Astier, ouais, je comprends.
Parce que quand on parle de jusqu'au boutisme, c'est un des maîtres du jusqu'au boutisme. Quand il y a une idée, l'exoconférence, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, il va au bout de l'idée. C'est fou. Et donc, la quantité de réflexion qu'il met, ça fait en sorte que je serais excessivement curieux d'aller gratter dans son cerveau.
Je comprends. Parce que c'est quelqu'un qui, à chaque interview qu'il fait, chaque prise de parole est passionnant. C'est impressionnant. Des fois, c'est des interviews de 30 secondes et tu te dis, c'est passionnant ce qu'il vient de dire. Il vient de changer ma vie. Mais ça a duré 30 secondes.
Et il y a la même chose que Philippe Gueuleux. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont aimé l'interview de Philippe Gueuleux et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'ont pas aimé.
Okay.
Ça arrive souvent que les gens me disent, ah, mais comment ça s'est passé? T'as pas trouvé qu'il avait l'air prétentieux?
Pas du tout.
Absolument pas mon ressenti. Mais c'est pas une demi-seconde mon ressenti, déjà en commençant. Mais surtout, je dis, il faut pas oublier un détail. Ce mec est un putain de génie et il essaie de pas te le faire sentir. Dans le sens qu'il fait pas le prétentieux à côté de toi. Mais clairement, la vérité, peut-être pas géniale à accepter, c'est que il est mieux que les autres. Il est mieux que les autres. Donc, peut-être que c'est ça que tu perçois, mais moi, je vois ça comme une gentillesse extrême de pas le dire. La quantité de succès qu'il a depuis les années qu'il a, il a tout arrêté lui-même, ses collaborations avec les médias en France, quand lui voulait arrêter. Quand on a reçu Michel Drucker dans Sans Chichi, Philippe Gueuleux qui est venu comme invité, Drucker a passé littéralement la moitié du temps à essayer de convaincre Gueuleux de revenir dans son émission. Les albums qu'il fait, les musées, il y a toujours des nouveaux projets. Et tout ce qu'il fait cartonne depuis quoi, 20 ans, 25 ans? En télé, ça tout a marché. C'est pas de la prétention que t'entends, c'est du génie, c'est tout. c'est du talent. Et Alexandre Astier, quand il parle, il peut avoir cette air prétentieux de « je sais mieux que vous » ou « je vous dis comment les choses fonctionnent ». Moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que ça vient avec une humilité en tant qu'être humain que moi, en tout cas, je perçois, peut-être parce que je suis fan et je choisis de percevoir ce que je veux bien percevoir. Mais aussi, ben, la vérité, c'est que c'est vrai que c'est mieux que nous. en général, tu vois.
Mais moi, je le trouve pas prétentieux. Justement, je trouve qu'il y a un truc de « je fais ça » et j'assume, je fais ça bien. Et c'est vrai, il le fait bien. C'est génial. Moi, c'est quelqu'un que je trouve pas prétentieux et je trouve juste passionnant à écouter.
Mais il est soigné et c'est chouette, les gens qui soignent leur production. Moi, c'est mon gros défaut, je soigne pas ce que je fais en général. J'ai toujours pas de jingle, j'ai toujours pas d'intro, j'ai tout ça parce que je sous-estime l'importance que ça a. Je devrais considérer que ça en a plus parce que ça en a plus, mais je le fais pas. Et j'essaie, maintenant, c'est le truc que je fais depuis un an, j'essaie de soigner beaucoup plus ce que je fais. Et quand je vois des gens soignés comme lui, je trouve ça très inspirant.
Tout à fait d'accord. En 2013, tu as lancé une autre série de podcasts, cette fois-ci en collaboration avec Anthony Mirelli, qui est un journaliste et un grand fan d'humour et de séries américaines surtout, enfin de tout ce qui est américain, Late Show et tout ça, qui s'appelle Comedy News Weekly. Est-ce que vous allez continuer ce podcast? Parce que j'attends l'épisode suivant, moi.
Je dis que j'ai pas de succès en général. Le Comedy News Weekly, c'est un des rares trucs dans ma vie que j'ai fait qui a du succès. Et c'est hyper marrant parce que c'est un des rares trucs que je traite mal.
Oui.
Je devrais traiter ça avec beaucoup plus de respect. C'est un des rares trucs que je fais que les gens ont vraiment aimé. Je veux dire, il y a des stats pour ce podcast qui sont ridicules. Honnêtement, on a la quantité de milliers de personnes qui écoutent ce podcast. La réponse est que je ne sais pas pourquoi on le fait pas plus. J'aimerais ça te donner une réponse plus intéressante, plus intelligente, mais qu'une idée. On le fait pas plus. C'est tout ce que je peux te dire.
OK. Mais c'est pas arrêté, quoi.
Non, non, non. Je veux dire, en général, on en planifie une quinzaine par année. Bon, on en enregistre environ 3 récemment. Mais non, c'est super. Et il y a une... J'adore faire des podcasts avec ce mec. Déjà, il est brillant, il est cultivé.
Il est drôle.
Il est rapide et il y a une chimie avec lui qui s'est développée avec les années, forcément, qui est très dure à remplacer.
Moi, j'ai découvert tous les podcasts très, très tard. J'ai découvert tout ça en janvier de cette année-ci. Binge écouter tout ce qui passait en podcast d'humour et tout ça. Et Comedy News Weekly, j'ai pas encore tout écouté. J'ai juste réécouté les premiers épisodes pour le podcast ici, pour essayer de remonter le temps en 2013 des premiers épisodes. Et je trouvais ça super chouette parce que dans tout le podcast il y a une complicité entre vous deux qui est super drôle. J'adore ça. Ça m'intéresse même plus que ce qui est dit parce que généralement ce qui est dit, soit je le sais déjà, soit c'était il y a quelques années. Donc
personne écoute pour les suggestions. En fait, si, il y a un peu de gens qui écoutent pour les suggestions, mais le trois quarts des gens, c'est pour ça qu'ils écoutent, quoi. C'est flatteur pour nous. C'est vraiment flatteur pour nous.
La police du jeu de mots, c'est super. Ça me fait mourir de rire.
À faire, c'est un des trucs les plus drôles parce que en fait, c'est un exercice d'impro au final. C'est genre Anthony me donne des trucs et je dois deviner le jeu de mots qu'ils ont choisi de faire avec ça. Fantastique.
C'est pour ça que je te dis que je te verrais bien faire de l'impro. Moi, c'est... Je trouve que t'es super bon là-dedans.
Quand ils rouvriront les salles en 2042, pourquoi pas?
Ça va.
En 2014, tu fais ton propre late night show sur la 2. Est-ce que c'était aussi bien que tu l'avais imaginé de faire un late show?
En fait, j'en ai pas vraiment profité au final. C'est ce que je me rends compte beaucoup parce que c'était quand même intense comme production. J'ai pas arrêté le reste non plus. Je continuais de faire du stand-up. C'était mon rêve de dire que genre, ça m'est arrivé souvent. Là, je finis un late show, puis on vient me chercher en bagnole, puis je vais faire une soirée de stand-up. Là. Quand même un fantasme ultime d'humoriste. Là. Mais donc, ça m'a demandé tellement de travail. Genre, de temps en temps, j'essaie de regarder le panneau. T'sais, j'avais un show avec mon nom sur un panneau. Là. Et j'essaie de regarder le panneau, puis me dire, c'est fou. Je veux dire, j'ai réussi à convaincre une chaîne de faire ça. Et malgré tout, j'arrivais pas vraiment à me rendre compte. Aujourd'hui, je m'en rends plus compte de ce que c'était. Mais en live, je te dirais que les moments ont passé, il fallait produire. Je suis pas du tout déçu parce que j'ai pu le vivre quand même, puis j'ai les souvenirs qui sont associés avec. Mais si tu m'avais demandé de décrire le feeling que ce serait d'avoir un late show versus ce que j'ai vécu, ça n'a rien à voir.
Mais à quel niveau?
Je me suis pas rendu compte pendant. C'est comme quand t'es dans une soirée, et puis tout à coup, je sais que ça fait deux fois que je suis un exemple avec des filles, mais une fille que t'as toujours kiffé vient te voir, te roule une pelle et se casse. Ton cerveau a comme un peu disjoncté, quoi. Moi, j'étais genre, OK, le prochain show doit être bon. Parce que le but de le faire, c'est que tu veux pas te ridiculiser, tu veux pas. Moi, et c'est con, là, mais j'ai un respect pour le format. Je voulais pas qu'on dise que j'avais ruiné le format du late show en étant nul. Et donc, il y avait un stress, que, OK, cet épisode-là était bien, mais quand l'épisode est bien, oui, tu bois un verre 5 minutes. Là. Mais après ça, tu fais comme, OK, shit, OK, next one. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Et t'es directement reparti dans le stress, non, c'est exagéré stress, mais pression positive, certes, mais pression quand même de production. Donc, t'as pas le temps de profiter. Là. C'est comme être en vacances, une semaine sur une magnifique plage où on dit, dans une semaine, tu dois avoir écrit un livre de 300 pages, comment t'as trouvé tes vacances? Ben, j'en sais rien. c'est un peu ça, quoi. J'en sais au final pas grand-chose de comment je me suis senti pendant, mais je suis très fier de l'avoir fait, je suis très fier de travailler avec toutes ces équipes-là aussi, qui étaient vraiment chouette.
Moi, j'adorais cette émission.
Je trouve que c'était pas ridicule. Je trouve qu'on n'a pas humilié le concept du late show et donc j'ai pas manqué de respect à David Letterman. Et déjà ça, c'est un point de départ.
On m'a fait découvrir plein d'humoristes belges qui avaient plein de talents. Donc j'adorais cette émission, mais j'étais vraiment la cible. Donc c'était un peu plus facile.
Apparemment, vous étiez pas nombreux dans la cible.
Mais je suis désolé, moi j'étais dedans, donc c'est pas de ma faute.
Trouve plus de gens comme toi et la vie va bien aller.
Mais je les cherche depuis longtemps. C'est pour ça que je fais un podcast.
Ouais, c'est ça. En fait, si t'avais pas dit que t'avais une copine, tu pourrais l'utiliser comme ton Tinder, quoi. T'aimes l'humour? Parlons. En fait, c'est une date, en fait. C'est pas un podcast.
Un peu une date où je fais juste plein de compliments à la personne. En fait, oui, c'est vraiment une date. C'est une date de quelqu'un sur qui t'as craqué parce que je l'invite, je veux lui parler longtemps et je lui fais des compliments. Ouais, c'est une date. Je vais dire à ma copine que j'étais en date depuis... Oh mon dieu, ça fait déjà 1h50. Ok, question suivante.
Je vais être encore plus en mode... Je sens que j'étais en semi-rafale, là. On va y aller en mode full rafale.
C'est compliqué, c'est pas des questions prévues pour des rafales, mais c'est pas grave. En 2015, t'as créé une web-série pour la RTBF qui s'appelait Presque Normal. Est-ce que tu t'arrêtais un petit peu de bosser? Parce que j'ai l'impression que tu faisais que ça. Il y avait des spectacles tous les ans qui sortaient, il y avait des émissions télé, il y avait le late show.
J'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant des années et c'est pas genre non, je suis content de l'avoir fait parce que c'était mon trip, c'était mon loisir. Mais oui, et tu sais, faut être honnête aussi, est-ce que la qualité était aussi bonne en travaillant autant? La réponse est non. Est-ce que j'ai travaillé peut-être moins? Probablement que oui, j'aurais pu soigner, justement, je parlais du fait de soigner, j'aurais pu soigner plus certaines choses, mais c'est juste qu'à un moment donné, le train passe, hein, et c'est maintenant. Moi, si on te dit, OK, t'as une web série, on te fait confiance, t'as un truc à ton nom, tu peux faire ce que tu veux, je prendrais des vacances une autre journée. Toi. Parce que là, t'as vraiment l'impression, tu dis, tu travailles fort, puis à un certain moment, la récompense arrive, mais tu piges à deux mains dans le sac de récompense. Là. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Ouais, tu travailles beaucoup, mais tu sais, on te propose, tu peux faire un late show. Et je crois que c'était après la première saison ou la deuxième saison du late show, là. Donc c'était vraiment très tôt. Late show, tournée de stand-up, spectacle acheté par la télé et web-série en même temps. Tu te dis, ouais, mais laissez-moi un ou deux rêves pour la fin de ma vie quand même. Là. Et c'est ça aussi l'impression d'avoir été au bout des choses. J'avais une image en tête de ce que c'était un humoriste qui réussit, au-delà du nombre chiffre d'audience et du nombre de personnes à ces tournées là, mais tu fais pas ce métier là pour les résultats, ou si oui t'es malheureux 99,9% du temps, tu fais le métier là parce que t'aimes le processus. Et là je me suis retrouvé dans tous les processus que je voulais tester, du stand-up, du late show, de la fiction en même temps. Peut-être que ça reviendra plus jamais. Parce que t'as toujours cette image-là que ta carrière, c'est petit peu par petit peu, t'avances. Mais c'est pas ça. Ça se trouve, tout le monde s'en bat les couilles maintenant. Plus personne s'intéresse. Ça se trouve, je referai plus jamais ça. Si ça se trouve, dans 10 ans, je vais revenir, puis les gens vont dire comme il était tellement mauvais avant, puis il est excellent aujourd'hui, ou l'inverse. Pourquoi il est revenu, c'est gênant, il aurait dû rester sur ce qu'il faisait avant. Tu ne le sais pas. Et donc, tout ce que tu peux faire, c'est aimer le processus et choisir intelligemment la quantité de processus que tu fais et l'énergie que tu y mets. Avec le recul, je me dirais que j'aurais probablement dû soit prendre un peu plus de gens autour de moi, soit prendre moins de projets, soit prendre plus de temps, je ne sais pas. J'aurais peut-être pu, slash dû, concentrer un petit peu plus sur certaines choses et soigner plus certaines choses.
Et pouvoir en profiter plus aussi, du coup.
Ouais. Si j'avais juste fait le show, par exemple, j'en aurais profité plus. Mais est-ce que je regrette rien. Je regrette rien parce que je suis aujourd'hui là où je suis, j'ai fait ce que j'ai fait. Je trouve que j'ai eu une vie intéressante. Genre, si je devais raconter ma vie à moi-même, je trouverais ça intéressant. Ça intéresse les autres ou pas, c'est à chacun de choisir. Mais tu dis quand je... Et puis je pense forcément beaucoup plus à la génération suivante maintenant que j'ai un enfant. Mais quand il va me demander, t'as fait quoi, papa, quand t'étais jeune? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es là aujourd'hui? J'ai l'impression que à travers les histoires que je vais lui raconter, je vais pouvoir transmettre les valeurs que je veux transmettre. Le quand on dit que tu peux faire ce que tu veux, c'est vrai, mais c'est faux en même temps. Tu peux faire ce que tu veux à condition de travailler plus fort. Plus tu choisis un métier qui a l'air chouette, plus tu dois travailler fort. Tu sais, je dis pas que les avocats travaillent pas fort, mais si tu veux être avocat, ben tu vas étudier fort. Tu travailles dans un cabinet, tu travailles fort, mais il y a pas le doute de est-ce que je vais arriver à être avocat, tu sais. Jongleur, tu ne sais pas si tu vas y arriver. Contorsionniste, tu sais pas si tu vas y arriver. Mais si tu es la personne qui travaille le plus fort, oui, tu vas y arriver. Le plus fort et le plus longtemps. Les deux sont... Parce que si tu travailles très fort 6 minutes, non.
Bah, ce qui serait chouette, ce serait que tu fasses écouter ce podcast à ton enfant plus tard pour lui raconter tout ce que tu as fait.
Ouais, en disant, ça me fait chier de te parler. Papa, il l'a déjà raconté dans un podcast. Donc écoute ça, ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Après, c'est quoi? Tu vas vouloir manger? Connard!
Moi, j'essayais juste d'avoir un auditeur en plus, hein, c'est tout.
Ouais, le gars qui planifie, genre, dans 15 ans, mon gars.
Ah, mon podcast, il va cartonner.
Avec une pipe sur le balcon, je veux dire, ces views-là, tu sais d'où ils viennent? Papa avait planté la petite graine du succès.
Je vais avoir du succès dans 15 ans.
Yeah! Ça pour le raconter aussi à tes enfants, en disant, tu sais pourquoi papa est billionnaire du podcast?
Non, je raconterai peut-être pas à mes enfants, je viens de faire un podcast sur le fait que j'en voulais pas.
Tu raconteras à tes pas d'enfants.
T'as fait 4 spectacles complets, à chaque fois plus ou moins une année par spectacle, avec une année de tournée, de rodage et tout ça. Est-ce que t'avais pas envie de rester plus longtemps avec un spectacle, ou t'étais lassé et tu voulais faire autre chose?
Et encore une fois, j'ai passé plus de temps certainement qui aurait été meilleur, mais moi j'ai pris le pari de m'améliorer en continuant de produire. Je trouve que le fait d'arrêter d'écrire et te fait aussi tomber dans une zone de sécurité où tu veux plus tester des nouvelles choses parce que t'as des gags qui fonctionnent. Et pour moi, il y a que en produisant beaucoup que tu peux arriver à faire de la qualité. Et c'était ma manière de pouvoir produire beaucoup. Et encore une fois, j'avais envie de correspondre au fantasme de l'humoriste que j'avais dans ma tête, celui qui fait un show par année. Et les années où j'ai réussi à enchaîner un show par année en le vendant à la télé, en faisant un late show, c'était... Je l'ai vécu, mon rêve d'humoriste. Je continue de faire ce que j'aime aujourd'hui, mais la raison pour laquelle ça me dérange pas d'arrêter de faire du stand-up, c'est parce que j'ai vécu ce que je voulais vivre. J'aurais préféré avoir 10 fois plus de succès, évidemment. Personne ne crache sur une montagne de pognon. Ça. Mais le processus, la vie de l'humoriste, je l'ai vécu. Elle m'a toujours fait rêver, comme toi, comme plein de gens qui écoutent certainement, qui sont très certainement des geeks d'humour aussi. L'humoriste qui passe sa vie dans des chambres d'hôtel, dans des avions. Où ils se plaignent tous que genre c'est dur d'être toujours sur la route. Puis toi, en tant que jeune humoriste, tu fais « Wow, ils sont toujours sur la route, j'ai envie de vivre ça. » Puis à un moment donné, tu le vis, puis tu fais « Putain, c'est vrai que c'est épuisant et c'est chiant, quoi. Pourquoi j'ai pas écouté quand il le disait? » Mais tu veux le vivre, et si t'as envie de le vivre, fais-le, vis-le. Fais-le dans le temps que t'as de l'énergie, que t'as l'envie, parce qu'après, les bénéfices, ils te restent. Le bénéfice de mes tournées, ben, c'est des gens qui écoutent mes podcasts aujourd'hui. C'est aussi l'argent que j'ai fait et la maison dans laquelle je vis. C'est aussi ça qui fait que j'ai pu avoir un lit de chaud. Fait, passe moins de temps à rêver, puis plus de temps à agir, quoi. C'est vraiment ça. Moi, c'est le seul reproche que je fais aux humoristes en général, à ceux qui sont concernés, mais je trouve que c'est un domaine de paresseux. Des gens qui disent, ah, j'aimerais ça faire un podcast. C'est pas vrai. Parce que si tu voulais faire un podcast, là, mais t'en aurais un. T'as besoin d'un micro, un ordi. T'as ça, un micro, un ordi, une connexion Internet? Pourquoi tu fais pas de podcast maintenant? Oui, mais je me demande, appelle une personne qui en fait 15 minutes. 15 minutes, il va t'expliquer. Puis t'es lancé. C'est même pas une heure de préparation après. Allez, prise en main du logiciel, peut-être 2 heures. C'est une demi-journée. Tu peux le faire. Ah, j'aimerais ça écrire des choses. J'aimerais ça écrire une série. T'as une main? Tu connais l'alphabet? Si tu le fais pas, c'est pas vrai. tu veux écrire une série. Tu veux avoir écrit une série. Tu veux être la personne qui écrit une série. Tu veux le succès d'avoir écrit une série. Tu veux l'histoire. Tu veux la bio tender qui va avec ça. Quand tu dis que tu veux faire quelque chose, c'est pas le résultat que tu es supposé vouloir, c'est le processus. Et le processus, dans notre domaine, tu peux le faire à tous les jours. Ah, j'ai pas d'inspiration aujourd'hui. Il fait, ah, mais dans ce cas-là, bosse pas. Parce que l'inspiration, c'est connu. C'est le truc qui arrive quand t'as fini de checker deux films, puis jouer à la PlayStation, puis fait trois siestes. Hein. Si t'as pas d'inspiration aujourd'hui, là, ben, va la chercher. Et puis, il y a un vrai truc, là. Souviens-toi de la dernière fois que t'étais dans un bon espace mental. Souviens-toi ce que tu faisais avant. Souviens-toi. Tu peux te conditionner à revenir dans son espace mental qui fait que t'es capable d'écrire. Et puis sinon, mets-toi des deadlines. Moi, la raison pour laquelle je me bookais autant de shows, autant de tournées, c'était pour m'obliger à écrire. Je suis comme n'importe qui. Si tu me dis, Dan, voici 1 million d'euros. Quand t'es prêt, tu me donneras un nouveau spectacle. Ben, dans 3 ans, tu peux encore te brosser, probablement. Mais si tu dis genre, ah shit, j'ai 1 heure demain au Comedy Club, ben, je vais écrire. Parce que personne aime ça, se faire humilier.
Non, pas trop.
Non, mais pas trop. J'aime bien, pas trop.
Pas trop. Oh,
je dis pas un petit week-end de temps à autre.
Pour se rappeler les sentiments que tu ressens, tu vois.
Ben oui. Mais pour moi, je pense qu'en comédie, t'as besoin des succès et des bides. Les succès, c'est ce qui t'encourage à continuer. Puis les bides, c'est ce qui te botte le cul à travailler plus fort.
Il faut que je t'envoie des messages les fois où j'ai envie d'arrêter d'écrire ou de faire des scènes parce que c'est excessivement motivant de t'entendre dire ça.
T'es peut-être le meilleur humoriste au monde qui est juste trop paresseux pour y arriver. Dans les humoristes, parlons pas de la personne, mais parlons de la qualité de ses shows. Louis C.K. a fait des shows qui sont parmi les meilleurs de tous les temps. Et quand tu regardes ces shows-là qui sont parmi les meilleurs de tous les temps, 5 ans avant, ce qu'il faisait, c'était spécifiquement pas de la merde. C'était ce qu'on appelle médiocre. C'est ni à chier, ni excellent. Donc, t'es dans le no man's land de l'intérêt. Tout le monde s'en fout de voir du moyen. Pas besoin de forcer ton moyen dans la face du monde. On s'en fout. Va au bout de l'idée. Travaille encore. La joke que tu vas écrire aujourd'hui, elle va être peut-être ta meilleure. Si tu travailles bien, dans 6 mois, ça va être ta pire. Et d'ailleurs, c'est Louis C.K. qui disait ça. Mon meilleur sketch, je le mets au début du spectacle. Puis à chaque fois que j'en ai un meilleur, je le mets au début du spectacle. Quand mon premier sketch de début du spectacle est à la fin de mon spectacle est prêt. Moi, je pense à ça comme avec des fringues. Dans ta garde-robe, tu regardes tes fringues, tu vois, ah, c'est pas mal. Tout à coup, tu vas acheter une nouvelle chemise. Et quand tu la mets dans ta garde-robe, toutes les autres fringues ont l'air dégueulasses à côté. Fais ça avec ta production. Le génie, c'est que ce que tu écris, ce que tu produis, ce sont des archives qui t'appartiennent. Tu vas pouvoir aller te plagier dans 3 ans. Il y a des idées des fois qui viennent, j'ai rebondi sur une ancienne idée qui était une version d'une ancienne idée. Construis tes archives personnelles, que ce soit des, moi c'est sur l'ordinateur, mais que ce soit des carnets, l'ordinateur, des notes sur ton téléphone. Quand j'ai écrit mon deuxième spectacle, j'ai imprimé toutes les notes que j'avais faites. J'en avais pour 2 cm d'épais de feuilles A4. Il y en a qui avaient juste une vanne sur la feuille, là, mais c'était allez, un 2/3 de rame de papier de feuilles. Et je les ai toutes relues. Il y avait de la bouse. Mais à un moment donné, je les ai classés par thème. C'était le plus pénible, le deuxième spectacle à écrire. Je les ai classés par thème. Et je fais comme, ah ben, il y a 3 thèmes qui reviennent. Et je m'en serais pas rendu compte déjà qu'en fait, ces 3 thèmes-là, c'était les thèmes qui m'intéressaient. Et quand tu vois, j'écris 152 punchlines, dont 2 de bonnes là, là-dessus. Mais t'évidence, ça m'intéresse. Boum, on fonce. C'est de ça que j'ai envie de parler. Ben, c'est ça dont je vais parler. Je fonce. Si j'avais pas pris ma note la fois où je... J'ai une idée en allant pisser, la fois où je me brossais les dents, j'ai pensé à quelque chose, la fois où dans le métro, je fais, ah, j'ai pas envie de sortir mon téléphone. Je l'ai pas ce paquet de feuilles-là. Je l'ai pas le classement. Je l'ai pas la vision claire sur qui je suis, sur ce dont j'ai envie de parler. Et quand tu t'imprimes toutes ces feuilles-là, tu fais, mais je peux pas rien faire avec ça. Tu dois être à la fois ton propre coup de pied au cul, quoi. Motive-toi. Sois ta propre carotte et ton propre bâton. Si vous voulez faire de l'humour, vous écoutez ça. Je vous promets une chose, vous êtes marrant. Je vous le promets. Est-ce que vous faites rire en ce moment? Oui ou non? Est-ce que vous êtes bon sur scène? Oui ou non? Mais est-ce que vous êtes marrant? Oui. C'est sûr que la réponse est oui. Est-ce que vous allez avoir besoin de 1 heure ou 1 milliard pour devenir une légende? J'en sais rien. Mais la seule chose sur laquelle tu ne devrais jamais avoir de doute quand tu veux faire de la comédie, c'est sur le fait que tu es marrant. Parce que tu l'es. Comment est-ce que tu vas emballer ça? Comment tu vas extraire ton marrant? Comment tu vas le vendre au public? Comment tu vas réussir à le toucher? Travail, 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 travail. Pour refuser une scène quand il y a une scène, et d'ailleurs, quand il va y avoir des scènes, elles vont être plus dures à choper parce que tout le monde est en manque. Mais moi, j'ai vu énormément d'humoristes refuser une scène parce que ils avaient pas trop envie, ils étaient pas prêts, c'était pas trop leur public. Si c'est pas ton public, que ça devienne ton public. Si t'as pas trop envie, cool, comme ça, ça t'oblige à te botter le cul. Si tu dis que tu veux le faire, tu peux y arriver si tu travailles fort. Et si tu as du mal à travailler fort, tu peux mettre des éléments dans ta vie qui font en sorte que tu n'as pas le choix de travailler fort. Si tu ne le fais pas, ajuste ton discours. Dis « j'aimerais bien réussir ». Ce serait cool si ça arrivait. Pas « oh, fais chier, je voudrais être plus avancé ». Les deux sont toujours liés.
Je sens que ce passage du podcast, je vais le couper et me le mettre en petite piste de motivation. On va revenir à toi parce que je sens que ce podcast, je vais en faire 4 épisodes en fait. Ah, je suis dégoûté de devoir travailler après, sinon je continuerai. Donc tu l'as dit, tu as décidé d'arrêter le stand-up, en tout cas sur scène de façon assez classique. Est-ce que tu es certain de ta décision? Est-ce qu'on peut te faire changer d'avis?
Oh, j'arrête ma... On dirait la carrière de stand-up, mais pour l'instant, ça va rester certainement un loisir. Je sais pas quand, mais quand je reviendrai en Belgique, c'est sûr que je vais choper une scène ou deux. C'est sûr que je vais faire au moins au Comedy Club parce que j'ai un affect exceptionnel avec cette scène-là. Mais est-ce que je vais refaire un spectacle? Peut-être un jour, mais c'est pas ma priorité. Probablement qu'à force de faire des podcasts, à un moment donné, je vais tomber sur des trucs où je vais me dire, putain, ça sonnerait bien en stand-up. J'ai un fichier stand-up encore ouvert sur l'ordinateur, mais j'ai pas grand-chose à dire d'intéressant en ce moment. La vie, justement, le processus m'intéresse pas du tout. La vie de tournée m'intéresse pas du tout. Voilà. Je serais plus curieux d'essayer de faire du stand-up, le filmer de chez moi, puis le mettre sur Internet pour l'instant, mais j'ai pas grand-chose à dire pour le moment. J'ai dit beaucoup de choses quand même, puis avec les podcasts, ça me permet de parler. J'ai moins envie d'être... J'écris pour d'autres, de la comédie, mais moi, j'ai moins envie de faire des blagues en ce moment. Donc voilà, donc, est-ce que je ne remonterai plus jamais sur une scène de ma vie? Si je remonte plus, c'est qu'il est arrivé quelque chose d'étrange, mais ben, une fois que t'as goûté à ça... Surtout que maintenant, il n'y a plus aucune pression, donc c'est tellement agréable. Tu montes sur scène, la dernière fois, je suis monté... première fois que je suis remonté en Belgique, donc c'était peut-être un an et demi après le... ma dernière scène, à la soirée de Jimmy Vandal, le Brussels Comedy Cat. Et il me présente, Jimmy, c'est un super gars avec qui on a déjà eu des discussions aussi quand il avait fait le tournoi à l'époque là, au Comedy Club. Et il me présente de manière hyper gentille, il est toujours hyper élogieux. Et clairement, c'est les gens qui sont là, c'est son public, et ils me connaissent pas vraiment. Mais il m'a tellement présenté de façon dithyrambique que ça m'a fait rire d'arriver en disant... vraiment en me prenant pour le pape, quoi. En expliquant aux gens que ça... Honnêtement, j'étais pas là pour eux, j'étais là pour moi. Parce que je sais très bien qu'ils ont pas la capacité intellectuelle de comprendre mon génie, mais peut-être que je sèmerai une petite graine et un jour, il y en a un de vous qui se réveillera en comprenant. Et bon, c'est l'exception, je sais, mais pour pas vous humilier vous-même, faites quand même semblant de rigoler, comme ça vous allez passer pour plus malin que vous êtes. Ou je sais pas ce que je dis, mais ça sonne comme ça, tu sais. Mais il m'a tellement bien présenté et je savais que ce que je jouais après allait les faire rigoler. Tu sais, j'ai 5 heures de matériel peut-être là-dedans en fonction des publics, tu sais quoi aller chercher. Tu finis par connaître le crowd work aussi. Et donc, je fais ça, tu vois que les gens sont amusés, rigolés, ils te font comme... Mais Jimmy a un super public aussi, là. Les gens lui font confiance très fort. Et donc, les gens font « Ok, c'est ton délire, c'est correct. Vas-y, on te laisse dans ce délire-là. » Mais il fait nourrir après. Et donc après, j'ai enchaîné sur un des sketchs que je fais qui marche le mieux. Et là, il rigolait. Ça m'a permis de refaire une coupure et de recommencer à jouer avec le public. Mais au pire, il rigole pas. Moi, j'ai mes potes humoristes à côté qui sont morts de rire. Parce qu'ils voient ce que je suis en train de faire. Ils voient que je me tape un bide. Et ils voient que ça n'est pas grave. Évidemment, par respect pour les gens qui viennent, encore une fois, puis pour les gens qui t'invitent, tu ne fais pas exprès de faire passer une mauvaise soirée aux gens. Si ça avait bidé, je me serais un peu amusé, mais j'aurais fini sur un truc qui lui fait rigoler, puis on passe à autre chose. Mais ce moment-là... Où il y a juste, mais je l'ai fait, je sais pas combien de fois avec Kouz du Comedy Club, quand je fais des trucs qui fonctionnent pas trop, et qui est là, lui, il a vu des heures et des heures de tests au Comedy Club que j'ai fait. Des fois, j'ai envoyé 3-4 punchlines juste pour le faire rire lui, et j'ai vraiment le son de son rire quand personne rit dans le Comedy Club, je l'ai en tête. C'est arrivé tellement de fois, et donc il y a ce plaisir-là qui, oui, je me priverai pas de ce fun-là quand je repasserai en Belgique, certainement.
Ah ben voilà, je suis rassuré. Je t'avoue avoir vu le truc de pourquoi j'ai arrêté le stand-up, et j'étais là, quoi? Non! Pourquoi? Non! Arrêtez! Ce n'est pas
chérie,
vrai!
Chérie! Faut que je te raconte quelque chose pendant une heure!
Ah, juste, je suis confiné, je suis obligé d'écouter son histoire.
Je vais recevoir un email de ta copine qui va me dire, est-ce que tu peux arrêter de faire des podcasts, s'il te plaît? C'est pour ma santé mentale.
Ce serait tellement drôle.
Ça me ferait mourir de rire.
Alors maintenant, tu l'as dit au début, tu écris pour d'autres humoristes. Est-ce que tu as eu du mal à écrire pour d'autres que toi? Parce que c'est vraiment un exercice très différent.
Ouais, mais c'est génial parce que déjà, ça, c'est des blagues qui n'auraient jamais existé sinon, souvent. Et puis moi, ça m'a... J'avais jamais vraiment écrit pour d'autres non plus. Et donc, ce sont des gens excessivement soignés pour qui je travaille et qui repassent sur le travail. Et donc, ça m'a vraiment permis d'apprendre à m'améliorer dans un domaine sur lequel j'étais très faible. Et comme ça, dernièrement, c'était toujours moi qui étais au top de la pyramide de travail, ben là, c'est vraiment pas moi. Donc, on peut me dire genre oui, mais non. Et ça m'oblige à aller puiser plus loin et travailler plus fort, encore une fois. Et c'est le côté négatif du fait d'être autodidacte, d'aimer apprendre. Et quand je dis que je suis autodidacte, c'est pas pour me vanter que j'apprends vite, c'est parce que je tolérais très certainement très mal de me faire dire que je faisais pas les choses bien, donc j'ai choisi de les apprendre par moi-même. C'est certainement une question d'ego fragile beaucoup plus que de capacité d'apprendre. Mais cet ego fragile a permis que j'ai appris certaines choses par moi-même, donc il y a eu des beaux côtés. Mais c'était mon épouse qui m'avait dit, elle dit, je pense que ce serait bien de travailler avec d'autres pour pouvoir te dépasser. T'es peut-être arrivé au bout de ce que t'es capable d'apprendre par toi-même. Et elle avait totalement raison. Et depuis un an et demi que j'écris pour d'autres, je me rends compte que je me suis améliorer dans la capacité d'écriture, la capacité d'écoute, la capacité de comprendre un projet, la capacité de comprendre un public, parce que c'est des gens qui ont des millions de personnes qui regardent ce qu'ils font à chaque mois. Toi. Et je fais comme, ah putain, ok, c'est comme ça qu'ils soignent leur public, c'est comme ça qu'ils parlent, c'est comme ça les certains codes. Et une autre phrase de mon épouse, mais j'ai toujours aimé faire les choses différemment, encore une fois, probablement par problème d'ego. Hein. Si t'es fait différemment, t'es pas comparé. Et une phrase qu'elle m'a déjà répétée quelques fois que je trouve super juste, c'est avant de casser les codes, commence par les comprendre. Maîtrise-les. Et après ça, tu les casseras tant que tu voudras. Et ça a été un autre excellent conseil où au lieu de toujours dire « Ah, comment faire différent? » En fait, non, mec, apprends comment ça fonctionne, comment ça marche pour les autres. Et après ça, mets ta touch. Hein. Tu ne seras que plus fort. Et donc, voilà, ça a été positif. Difficile, oui, mais difficile de manière agréable. C'est difficile pour une des choses que j'aime le plus faire au monde et où j'ai la satisfaction de m'améliorer. Difficile en quantité d'effort, pas en pénibilité mentale. Donc.
C'est pas évident. Mais ça te fait plaisir de le faire.
Ah, c'est super, c'est des masterclass. Il y a des gens, tu sais, Pablo, pour prendre un des deux gars qui je travaille principalement, quand même un solide maître du sketch, quoi. Il remplit Forêt Nationale, il y a des centaines de milliers de views à chaque vidéo qu'il fait. Il y en a énormément qui ont passé le million. Il est contacté par les Diables Rouges régulièrement pour faire des trucs avec les Diables Rouges. Pendant le confinement, il a produit 23 vidéos qui ont été diffusées à la télé. 23, il a produit 1h10 de nouveaux matos sur le confinement, c'est exceptionnel.
Moi. Et elles sont drôles en plus.
Ouais, et j'ai la chance de côtoyer ce gars-là sur une base quotidienne. Quelle masterclass,
hein? À fond. J'ai essayé de l'avoir sur le podcast, je lui ai envoyé un message, je vais encore le refaire après, ça serait tellement chouette de lui parler aussi.
Quelqu'un qui est assez low profile et plus discret aussi, et vraiment débordé en ce moment, donc il faut vraiment pas que tu le prennes personnellement.
Oh non, je prends pas personnellement du tout, c'est juste que j'essaie parce que je trouve que... Je suis sûr qu'il a plein de choses passionnantes à raconter aussi.
Et c'est super drôle parce qu'il se trouve mauvais en interview. Et c'est hyper drôle. Souvent, il avertit les gens. Il fait « Ouais, mais moi, je suis mauvais en interview. » Donc, c'est hyper rigolo.
Je suis encore plus curieux. Je vais encore lui envoyer des trucs. Est-ce que maintenant, tu continues à regarder beaucoup d'humoristes belges, français, suisses, québécois ou moins?
Ça doit faire à peu près 7-8 ans que j'ai plus ou moins arrêté de regarder tout. Au début, je bouffais. Je connaissais vraiment bien ce qui se passait. Aujourd'hui, je suis plus au courant de quoi que ce soit. Je regarde 4-5 stand-up par année. Peut-être quand je vais en Belgique, je reste, tu sais, je suis invité des fois, je fais des plateaux, puis je reste pour regarder un peu les autres, voir un peu ce qui se passe. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à regarder les entre guillemets ceux qui commencent, pas tout le monde sur les plateaux qui commence, mais le ce qu'on appelle la prochaine génération, mais avec le What the Fun, c'est fantastique entre autres de voir tout ça. Ils travaillent très fort, eux. Mais sinon, non, je regarde. Et souvent, je fais très peu de découvertes maintenant. Là. Je vais regarder mes valeurs sûres. Là, genre les Patton Oswalt, il y a un nouveau show qui est sorti. Ah, mais ce gars-là, je l'adore. Je l'aime vraiment. Quelle chouette personne. Je suis content qu'il soit marrant parce que je regarderais quand même son spectacle s'il ne l'était pas parce que je trouve que c'est une chouette personne. Donc, lui, Sarah Silverman. Et beaucoup d'humoristes que j'aime sont morts. Donc, ils ont moins de nouveaux spectacles aussi.
Ça limite. Et c'est marrant parce que Patton Oswalt et Sarah Silverman, je connaissais peu. Et c'est toi qui m'en as parlé et qui m'a fait découvrir ça à la scène qu'on parlait tout à l'heure, donc j'étais encore trop content parce que tu m'as fait découvrir deux personnes géniales, donc merci.
Merci à eux. Merci à eux, mon ami.
Ben, on va les remercier. J'espère qu'ils entendront ce podcast.
invite. Si t'as Patton Oswalt dans le podcast, il y a moyen que ce soit bien.
Ouais, on va commencer. On va essayer. Je vais lui envoyer un message. que je suis déjà stressé en invitant des gens que j'ai déjà croisés. Mais alors, je vais inviter des stars.
Je devrais l'inviter dans le podcast. Je devrais lui envoyer un message. Tu sais qu'il m'a déjà répondu sur Twitter une fois?
Ah, trop bien.
Non, c'est une connerie. T'sais, il est super actif sur les réseaux sociaux. Moi, je suis comme un vieux, je suis sur Twitter plus. Et il passait faire des shows. Je crois qu'il faisait un show, ou en tout cas, il était en voyage à Paris. Et je me suis dit, je vais y envoyer un truc avec une blague en espérant que ça attire un peu son attention. Puis il fait, hey, c'était à Paris, j'ai quelque chose à te proposer. Dans un petit comedy club avec presque personne où il fait noir, pas annoncé à Bruxelles. Contacte-moi. Puis il avait juste, en fait, il avait retweeté ce que j'avais mis en disant, j'ai quelque chose comme « Sounds great, guys, what do you think? » Et je m'étais dit « Ok, il a vu mon message, je vais tenter. » Et je crois que j'ai renvoyé un message pour tenter de dire « Non, mais c'est un truc legit, blablabla, si jamais ça t'intéresse. » Et j'ai pas eu de réponse, mais c'est vraiment genre... J'ai essayé de clickbaiter Patton Oswalt.
On va passer maintenant à l'interview où je t'avais dit, l'interview name-dropping, où je te demande de citer des autres noms d'humoristes, du coup. ou sûrement que Patton Oswalt va revenir à un moment donné. L'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré, toi?
Yacine Bellous. Ce mec, genre, Jésus a l'air d'un trou du cul à côté.
Mais tellement.
Gandhi a l'air d'un fighter MMA à côté. Il est gentil, il est généreux, il met les autres en valeur tout le temps. En fait, tu sais, quand quelqu'un est heureux, comment c'est une bonne personne? Ben, Yacine a l'air heureux, équilibré, je l'ai croisé plein de fois. Il est déjà venu en Belgique juste pour voir un projet que je faisais, qu'il trouvait qu'il avait l'air chouette. Là, il a fait l'aller-retour pour venir voir un truc. Quand je l'ai croisé à Montreux, il allait faire son petit footing le matin. Tu sais, quelqu'un, quand il te parle, il te parle. Et quand il t'écoute, il t'écoute. Et moi, c'est la qualité que j'aimerais sur laquelle je travaille parce que j'aimerais le plus avoir. C'est, je trouve que mon écoute, elle est nulle. Et je trouve que c'est pas poli. Et je me trouve pas poli. Et lui, je trouve que quand il t'écoute, t'es dans un petit sofa, dans un jardin extérieur l'été, et quelqu'un vient t'apporter des fruits. Tu vois, tu te sens bien comme ça. Quelle magnifique personne. Voilà. Et puis, très marrant, mais j'adore ce pays.
J'adore aussi. Et tous les podcasts que j'écoutais de lui, mais je sais plus si t'en as fait un avec lui ou...
On a fait la centième du Comedy News Weekly en direct. Ben, ça va t'intéresser du coup. La centième du Comedy News Weekly est en direct du Comedy Club avec Yacine Bellous comme invité. Numéro 100.
Ça va. J'irai écouter ça. Je sais ce que je fais après mon cours ou peut-être pendant. Je rigole. cours à distance, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Non, j'écoute pas du tout un podcast. C'est pas possible.
Mais c'est soit plus intéressant qu'Yacine Bellous, puis je vais t'écouter.
Bonne chance.
Son docu, j'imagine que tu l'as vu évidemment, mais son docu sur le stand-up.
Je l'ai vu le jour où il l'a sorti, je pense.
Mais allez voir ça. Il interview entre autres avec l'allemand et le russe, parce que c'est l'humour à travers le monde. Et les interviews avec l'allemand et le russe, entre autres, sont fascinantes. Voilà, fascinantes.
L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
Je suis obligé de dire David Letterman. Je vais en nommer deux quand même. Pour le stand-up, c'était... il y a eu Seinfeld et puis Louis C.K. Quand il y a eu une période où il est sorti un show par année pendant 4 ans, ces shows-là, c'était « Ah, je peux dire ce que je veux, c'est pas obligé d'être toujours marrant, ça peut être déprimant, tu peux être autre chose qu'une case et tu peux être plusieurs choses en même temps. » Voilà. Et quand j'étais jeune, Louis-José Houde au Québec, et à cause de lui d'ailleurs, très déçu la première fois que je l'ai vu en show parce que ma soeur l'avait vu et elle me dit « En fait, je t'ai vu en spectacle. » Mon naturel, c'était d'être comme Louis-José Houde. Et mon premier show, quand tu le regardes au Cirque Royal, pour Cirque Royal, c'était celui qui était capté à Namur. C'est l'excellent spectacle. Il est sur Internet. Moi, je trouve ça... Alors que j'adore me regarder. Je ne suis pas de ceux qui ont du mal à se réécouter, à se regarder. Je me kiffe. Mais ce spectacle-là, je trouve ça rude de le revoir parce qu'il y a tellement de trucs où tu dis, putain, mais on dirait juste que j'ai copié Louis-José Houde dans ses mimiques, dans ses trucs. Et c'était mon clown comique de base ressemblait au sien. Certainement que j'ai par mimétisme, j'ai fait beaucoup de ces choses-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Mais c'est hyper rude de voir ça parce que j'ai vraiment l'air du produit Lidl de Louis-José Houde, je trouve.
Du produit Lidl de Louis-José Houde. Ah, j'aime bien. Mais je sais plus à quel moment, et ça, je pense pas que je le laisserai dans le podcast parce que c'est pas très intéressant, mais il y a une fois où j'écoutais ton podcast et je sais pas sur quelle intonation ou sur un mot, je me suis dit, on dirait Louis-José Houde, et je me suis dit, je vais lui dire, et après je me suis dit, non, ça va sûrement pas l'intéresser. Mais je sais plus sur quel... Il y a un truc sur lequel tu as parlé où je sais pas si c'était il y a une phrase, je me suis dit... Ça sonne Louis-José Houde.
C'est quand tu finis avec une intonation en l'air souvent, ou si tu te mets à parler très très aigu en disant « Mais je ne pense pas que ce serait possible. Non, non, je te dis non. »
Je sais plus sur quoi, mais voilà, je me suis dit ça va intéresser personne parce que...
là, c'est geek de chez geek de chez geek. Là. Un podcast de Dan Gagnon qui fait une référence à une intonation de Louis-José Houde. Là, on a peut-être trouvé une des rares niches qui intéresse personne.
Je sais plus maintenant si je vais le retirer ou le mettre, mais c'est pas grave.
Bah, ça fait 3 heures de podcast. De toute façon, si vous êtes encore là, vous êtes increvables. Il y a personne qui va quitter. Peu importe, je pourrais péter dans le micro pendant 12 minutes. Ceux qui sont encore là, ils sont à la fin. Ouais.
Celui qui t'a donné envie de monter sur scène, le premier qui t'a donné envie de monter sur scène.
Il n'y en a pas, en fait. C'est les humoristes québécois. Si je regardais les festivals, les trucs à la télé, je voulais faire ce qu'eux faisaient. Mais c'est pas un en particulier.
Un humoriste qui t'a surpris dernièrement.
Ah, très intéressant comme question. Un humoriste qui m'a surpris récemment. Qu'est-ce que j'ai regardé? Pas si récent. Et c'est un acteur comique qui fait de l'humour beaucoup. Et c'est Paul Rudd qui fait, entre autres, Ant-Man, qui jouait le petit copain de Phoebe dans les dernières saisons de Friends.
Oui, Mike Hannigan.
Ah, ça, je me souviens plus, mais...
Non, mais moi, c'est Friends. Là, j'ai toutes les références. C'est bon, je peux dire.
Et le gars, il est devenu donc une star de blockbuster, genre de cinéma blockbuster. Et son timing comique, il est incroyable. Dans le blockbuster, ça continue. Quand tu le vois ailleurs, ça continue. Son timing comique est fou. Anthony me racontait une anecdote. Je sais pas s'il l'a raconté dans le podcast, mais il était chez Conan. Pas Anthony, hein. Paul Rudd, et il racontait sur la fin de Friends, genre il était là pour le dernier épisode, et t'as genre une des filles, je sais plus laquelle, qui tombe dans les, tu sais, croise une productrice dans les coulisses et ils se tombent dans les bras l'une de l'autre, c'est un moment émouvant, tu sais, 10 ans, surtout à l'âge qu'ils avaient, c'est incroyable, ça. Apparemment Paul Rudd est à côté un peu comme un pion, ça, et pendant qu'elles se font une accolade hyper émotive, apparemment il a juste dit genre... What a ride!
Oui, il est bien raconté dans le podcast, j'ai déjà entendu l'anecdote.
Quelle aventure! Et tu te dis, c'est tellement drôle! C'est hilarant. Et dans un autre qui m'a surpris récemment, moi j'étais moins fan de ce qu'il faisait récemment, c'est Dave Chappelle. Et dans Sticks and Stones, oh mon Dieu! C'est la personne la plus à l'aise sur scène depuis Eddie Murphy au Madison Square Garden. Incroyable.
Je crois qu'on peut pas débattre longtemps là-dessus.
Oui, Dave Chappelle est bon en humour. Voilà.
Il se débrouille. Je pense que s'il travaille fort, ça pourrait donner quelque chose.
Et son génie, je trouve, dans ce show-là, c'est qu'il dit plein de choses qu'il sait ne se disent pas. Et sans dire qu'il sait que ça se dit pas, il te fait comprendre que c'est un humoriste puis il s'en fout et c'est pas à prendre au pied de la lettre parce que son job, c'est de trouver des prémices marrantes. Et je ne l'ai plus retrouvé. Quand il est sorti, au moment où il est sorti, il y avait un genre de post-scriptum, parce que j'ai oublié le nom, un after-show, en gros, d'une demi-heure à peu près, où il est sur scène, puis il prend des questions du public. Parce que quand tu es du level de Dave Chappelle, un Q&A avec le public, c'est exceptionnel. Là. Et il raconte que, parce qu'il a fait beaucoup de blagues sur les trans dans sa vie, puis il a été beaucoup critiqué pour ces trucs-là, quelqu'un lui pose une question là-dessus, puis il dit qu'une fois, il a fait son show dans un des comedy clubs, puis il a vu une trans dans le public. Puis il dit, ah putain, c'est vrai, j'ai ce bit-là qui arrive sur les trans, je sais pas si je devrais le faire ce soir. Puis il dit, pendant que je suis sur scène, je me suis dit, mais si je dois pas le faire ce soir, c'est que je dois jamais le faire alors. Peu importe qu'elle soit là ou pas. Et cette réflexion, là, je trouvais qu'elle était tellement intéressante par rapport, pour mettre en perspective ce qu'il fait de... Je trouve que... Moi, je suis victime de rien. Je suis pas dans un groupe critiqué. Et donc, je vais certainement pas, en tant qu'homme blanc hétéro, commencer à expliquer qui devrait se sentir vexé ou pas par des vannes, qui devrait se sentir humilié, maltraité. Voilà. Ce n'est ni mon rôle, ni ma place, ni mon envie de faire ça. Mais le simple fait de voir que la personne... a une réflexion, choisit de faire la vanne parce qu'elle pense que la blague est plus drôle que potentiellement vexante pour un public, que blablabla, me dérange déjà beaucoup moins. Je reprécise, c'est pas moi qui suis victime, mon opinion s'en bat les couilles. Pour prendre une référence de Friends, no uterus, no opinion. Mais il y a peut-être une erreur de jugement, il pense peut-être pas comme tu veux, c'est peut-être un crétin, mais il est pas stupide. Et déjà ça, c'est apaisant de me dire, comme je suis pas en train de regarder quelqu'un qui va décider de faire des blagues sur les pédés parce que c'est quand même drôle la gay pride. Tu fais juste parce qu'une fois dans un open mic, il y a eu un rire avec ça. Et aujourd'hui, tu lui dis, tu devrais peut-être pas faire ça, mec. Puis il fait, oui, mais ça fait rire. Et ça, c'est l'entièreté de ta réflexion. À moins que ça vienne avec un truc qui est, je m'en bats les couilles, si c'est pas illégal, je le fais. Fine, t'as le droit. Littéralement au premier degré, t'as le droit de offenser des gens.
Eh bien, j'ai eu la même réflexion que toi avec ce passage de Dave Chappelle parce que je me disais, j'aimais pas beaucoup, je suis pas le plus grand fan de ce qu'il fait, même si c'est une légende et on peut pas dire qu'il est pas bon. Mais ce que j'aimais pas, c'est que des fois, je suis souvent pas d'accord avec ce qu'il dit. Et quand il a eu cette réflexion, je me suis dit, ah, il y a, comme tu dis, il y a une recherche, il y a une réflexion, et il le fait pas juste pour faire une blague.
C'est conscient.
C'est conscient, et on voit que c'est une bonne personne, quoi. Je trouvais dans la réflexion.
C'est ça. Et puis, son amusement, c'est de trouver les failles dans les réflexions. Et quand il parle justement de LGBTQ+, qui appelle déjà de façon très offensante « the alphabet people
», j'adore ce truc.
Il dit, bon, après ça, des gens qui genre, s'identifient comme étant un tel, un tel, un tel. Et je trouve que le gag qui sort après en disant, mais si moi je décide que je m'identifie comme chinois et sa femme est asiatique, il dit, c'est sûr que ma femme me pète la gueule quand je rentre à la maison. Puis là, il se met à faire la caricature la plus insultante possible du personnage asiatique. Mais clairement, son plaisir, c'est de voir la tête des gens qui disent, oui, mais c'est pas la même chose. Mais pourquoi c'est pas la même chose? Ah! Et c'est clair, dans ma... parce que pour moi, c'est clair que son plaisir, c'est de semer ces petites confusions-là. Il est très fin. Imiter un Chinois, c'est pas du tout fin. Mais rechercher le fait de coincer les gens dans leur système de réflexion en essayant de soulever des petites failles, ça, il y a une justesse et une finesse là-dedans, et tu peux détester cet art, mais dans cet art, je trouve que c'est le meilleur.
Spectacle que tu recommandes le plus?
Mm-hmm. C'est pas si intéressant parce que c'est obligé, pour moi, c'est le Richard Pryor Live. Tous les humoristes que t'aimes des 30 dernières années, quand ils vont parler du meilleur spectacle, ils le mettent même pas dans la même catégorie. À part... Richard Pryor Live, et voilà. Et tu vas probablement pas aimer son propos, son discours, quoi que ce soit, mais remets-toi à l'époque, ce qu'il est, ce que ça représente, la façon il va jouer sur scène, il va incarner des personnages, il va, c'est plein de risques, c'est plein de charisme. Et lui était une personne dégueulasse. Hein. Mais ce show-là, s'il n'y a pas lui, il n'y a pas Raw et Delirious d'Eddie Murphy. S'il n'y a pas Raw et Delirious d'Eddie Murphy, il n'y a pas Chris Rock comme tu le connais. S'il n'y a pas Chris Rock comme tu le connais, etc., 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 etc.
Tu devais dire le spectacle qui t'a fait le plus rire.
Ah, je ne sais pas si c'est lui qui m'a fait le plus rire, mais celui que j'ai le plus aimé, c'est Mitch Hedberg. C'est, à mon sens, le plus grand génie, pas comique, mais genre de stand-up de tous les temps. C'est le plus pur. C'est d'une beauté. C'est un échec constant en étant une réussite constante. C'est un... Je l'ai demandé en cadeau, mais je me le serais acheté. Mitch Hedberg a fait, avant son overdose, 2 comedy specials. Et il y en a un troisième qui est un remontage qui a été fait après son décès. Qui, je crois, s'appelle le troisième Mitch Altogether. Mais il y a un coffret Comedy Central a sorti, et c'était 3 vinyles avec la clé USB aussi, un espèce de livret avec des notes, et tu vois des photos de ses carnets, qui est l'objet qui m'intéresse le plus au monde, les carnets de notes de Mitch Hedberg. Et il y a sur un des vinyles une première partie qu'il a fait dans un casino, et je me demande si c'était pas les Doobie Brothers ou bref. À un groupe de musique. Et ce sont les mêmes blagues qui ont fait son succès, qui sont sur le vinyle, quelques années avant, et ça ne marche absolument pas. C'est Atlantic City, la ville, je ne me souviens, je suis désolé, j'ai des tocs. Ça marche pas, et moi qui suis archi fan de Mitch Hedberg, tu comprends pourquoi ça fonctionne pas. Il y a juste ce millimètre à côté, un petit peu trop lent, un petit peu trop vite. La pose n'est pas exactement pareille. L'accent tonique n'est pas tout à fait au bon endroit. L'intonation... Et tu fais « wow ». Et c'est là que tu vois que c'est un orfèvre de la punchline. C'est qu'il l'a peaufiné pendant des années, jusqu'à ce que ça donne ces petits bijoux qui, si je vous le raconte, une blague à la fois, ça a l'air complètement stupide avec... J'essaie d'en trouver une que je peux traduire. J'ai vu une pub en fin de soirée en télé... En disant, c'est un objet idéal pour arroser tes plantes qui sont difficiles à atteindre. Qui met ses plantes à un endroit difficile à atteindre? Ça me semble tellement méchant. Je sais que t'as besoin d'autres, mais je vais te mettre à un endroit difficile à atteindre. Pense comme un cactus. Et c'est une piètre imitation de Mitch Hedberg, mais juste un gag, tu fais, hein, qu'est-ce qui. Hein? Et si tu prends 4-5 minutes pour rentrer dans sa tête, c'est d'une beauté inouïe. Il bégaye, il rit à ses propres blagues. On dit que c'est la pire chose. Et j'aime bien, il dit, on me dit qu'il ne faudrait pas rire à mes propres blagues, mais faire du stand-up, c'est fun. Et tu sens toute la douleur de cette personne qui n'est pas bien, qui gardait ses lunettes de soleil sur scène, qui ne regardait pas vraiment le public, qui avait ses cheveux devant les yeux une fois sur deux. Mais cette personne est d'une beauté comique pour moi. C'est... voilà.
Ben, je ne connais pas assez. Il faut que j'aille voir ça, parce que tu m'as trop donné envie.
De toute façon, c'est ça. Je peux pas le vendre plus que ça.
Non, mais c'est très bien vendu. J'ai envie d'aller voir ça parce que, étant un geek d'humour, il faut que je le connaisse. Tu m'as trop donné envie. Après la première phrase, j'avais déjà envie d'aller écouter. Donc, maintenant, je vais te demander de choisir entre 2 humoristes. Tu dois me dire lequel tu préfères uniquement au niveau de l'artiste, je veux dire de lui sur scène, quoi. Pas la personne. C'est pas parce que tu vas me dire un que l'autre c'est un connard. Non, c'est juste que tu trouves que lui est plus drôle ou...
J'achèterais un billet pour ce spectacle-là plutôt que ce spectacle-là.
Entre Cody et Pablo Andrés.
Je vais te répondre un truc. Pablo Andrés, parce que Cody, les blagues, je les connais, je les ai co-écrites. Voilà.
Bien placé.
T'as vu le gars qui se mouille pas?
À fond. Ah, mais j'adore cette partie pour que les gens essaient de pas se mouiller à chaque fois, ça me fait. Entre Dave Chappelle et Louis C.K.
Louis C.K.
Entre Adib Al-Khalidé et Roman Frécinet.
Roman Frécinet. Parce que son style est un peu weird et j'aimerais ça le voir sur une heure, voir ce que ça donne.
J'ai pas encore vu le spectacle complet, il faut que je le fasse.
J'aime son timing, j'aime son flow. Il a fait l'école de l'humour d'ailleurs à Montréal, Robert Trissinet.
Oui, oui, il l'a fait d'office.
Je me demande si c'était pas la même année qu'Adib d'ailleurs.
Non, pas la même année. En tout cas, il me semble pas. Il a fait la même année que Rosalie Vaillancourt, mais pas la même année qu'Adib. Je pense pas que
c'est. Oui, c'est ça, mon erreur. Quand tu commences à connaître les années de finissant de l'école de l'humour, c'est que t'es un vrai geek.
Oui, mais moi, l'école nationale de l'humour, c'est un truc qui me reste, qu'il faut que je ne sais pas, toujours pas s'il faut que je le fasse ou que je le fasse pas, mais c'est un autre débat.
Poudlard, quoi.
C'est ça, c'est mon Poudlard, ouais, vraiment. Entre Mike Ward et François Bellefeuille.
Ah, Mike Ward. J'adore François Bellefeuille, mais je sais pas, il y a quelque chose avec Mike Ward qui. J'ai eu la chance d'avoir rencontré les deux, qui sont deux d'une gentillesse, deux super personnes, mais Mike, c'est. En fait, son humour vient moins de sa personnalité, donc moi, en tant que fan de punchline, tu sais, vraiment du. Je vais aimer, par exemple, regarder Jeselnik pour ces trucs-là. C'est juste, c'est le tour de magie. Le Bellefeuille est excellent sur scène avec son personnage. Il joue, il est tellement drôle. Mais Mike Ward, tu peux lire ses punchlines plus celles de Mike Ward que celles de Bellefeuille sans la voix de Mike Ward et trouver ça drôle. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui.
En termes de punchline pur. Et...
Tu peux lire sa vanne et te marrer. Alors que François Bellefeuille, si tu le vois pas faire, c'est pas spécialement. Ça sera moins drôle, en tout cas.
Ça, c'est deux génies comiques là, qui cartonnent. Et voilà. Et c'est con, mais genre, j'ai déjà vu trois spectacles de Mike, je crois. Et donc, c'est vraiment ce côté-là. Il y en a un, j'ai jamais vu son spectacle au complet, puis l'autre, j'ai déjà vu. Donc, qu'est-ce que tu veux voir? Le nouveau fait? Non, celui que j'ai déjà vu. Je suis un imbécile.
Moi, j'ai un DVD de Mike Ward que j'ai acheté au Canada quand je suis allé, parce que j'ai acheté plein de trucs, et il ne fonctionne pas sur les lecteurs DVD en Belgique. C'est pas les mêmes trucs, apparemment.
Peut tricher? Ça se triche, toi. Tu peux regarder sur comment craquer ton lecteur DVD normalement, ou ton ordinateur, t'as des petits programmes qui existent, tu veux tricher.
Ok. Je vais chercher ça plus tard.
Ou sinon, si tu le télécharges illégalement alors que tu as le DVD, je pense que Mike Ward ne va pas t'en vouloir.
Ouais, je pense pas. Je pense même que je pourrais le télécharger, ce qui m'en voudrait pas, tout court.
Je pense aussi. Mais il y a un côté où tu sais que c'est pas irrespectueux si t'as acheté le DVD, il fonctionne pas, puis que tu le télécharges, c'est ça?
Je peux montrer, faire une capture d'écran du téléchargement et lui montrer le DVD pour lui dire « Je l'ai pas volé. »
Je te promets.
J'aime trop ce que tu fais. Tu veux pas faire le podcast, au fait? Pardon.
Ouais, c'est ça.
Entre Florence Mendes et Fanny Ruet.
Ah, oh, Florence, Fanny, c'est une conne.
Ah, j'espère qu'elle écoutera jusqu'au bout juste pour entendre cette partie-là.
Elle écoutera jamais Dan Gagnon 3 heures de temps, mon gars. Je te promets.
Ah, tu crois?
Je la saoule déjà au bout de 5 secondes, je crois.
Ah, ben, je serais content qu'elle écoute jusqu'au bout, mais.
Non, mais c'est. Forcément, c'est deux personnes que j'aime, deux personnes avec qui j'ai travaillé, donc j'en ai nommé un, puis j'ai insulté l'autre complètement at random.
Mais je me doute. Entre Kian Kojandi et Marina Rollman.
Ah, oh, Marina. J'aime aussi Kian, mais Kian, tu sais que c'est le. La première fois de ma vie que j'ai joué au Québec, c'est en première partie de Kian. Il m'avait fait jouer au ZooFest à Montréal. Et donc, c'est un Français qui permet à un Belgo-Canadien de jouer au Québec pour la première fois. Donc, il y a forcément un affect, mais sur le spectacle. Et il développe les deux une comédie vraiment particulière. Un show de Marina, c'est un show de Marina, puis un show de Kian, c'est un show de Kian. Et les deux, ils sont assez novateurs, je trouve, dans leur manière d'envisager les choses. Mais il y a quelque chose de chez Marina qui, sans être ni même de l'emprunt quoi que ce soit, elle a une vibe de... J'essaie d'être une bonne personne et j'essaie que ma comédie fasse avancer les choses qui est très Sarah Silverman-esque, je trouve. Et je l'ai vu une fois, elle est venue jouer dans une maison, une espèce de maison communale, mais ça ressemblait vraiment à le salon d'une maison de maître où il y avait genre 40-50 chaises. Je crois que c'était à Gansoren. Et j'ai adoré jouer là, mais c'est vraiment super particulier. Et une fois, elle était dans le coin, puis elle a accepté de venir jouer, mais j'avais Talib Saritas et Marina Rollman qui faisaient les deux premières parties de mon show dans cet endroit où il y avait 50 personnes. Et je me dis, putain, mais ces gens n'ont aucune idée de la chance qu'ils ont ce soir-là de voir débarquer Talib. C'est un vrai fou.
J'adore
un très beau fou. Et Marina, c'est déjà tu vois ses vidéos, les views qu'elles font, là où elle est, quoi que ce soit. Mais et elle testait un truc pour son nouveau show, quoi. Donc ils ont eu 10 minutes d'un sketch exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et donc voilà, ça me l'a fait aimer d'autant plus. Et Kian, c'est grâce à lui si mes podcasts sont mis à fonctionner plus. Je le connaissais pas. Et il avait entendu mon podcast et il dit « Ah, si tu veux, on peut en faire un. » Puis c'était en pleine gloire de bref. Je sais, putain, mec, t'es sérieux? » Oui, mais moi, ça me sert beaucoup plus qu'à toi. Mais c'est un vrai fan et geek de comédie. Et donc, je suis allé. Puis dans le café où on s'était réunis à Paris, il y avait trop de bruit. Donc, sa prod a loué une chambre d'hôtel pour qu'on puisse faire le podcast tranquille. Et donc, c'est deux personnes qui ont toujours été gentilles avec moi, qui sont excessivement douées. Et donc, Et Marina a joué dans la série, voilà. Et donc voilà. Mais Marina, il y a quelque chose. Si j'étais une fille, j'aimerais être Marina Rollman.
Oui, je comprends. Bah, je suis content parce que j'ai réussi à faire des choix qui n'ont pas l'air si faciles.
Ah ouais, non, mais forcément. Tu mets que des gens que j'aime.
Entre Amy Schumer et Catherine Ryan.
Ah, Catherine Ryan. Amy Schumer, elle est méga drôle, quoi que ce soit, mais la dernière fois qu'elle est montée sur scène, elle n'avait pas l'air d'avoir envie. C'était un peu awkward, je trouvais. Et Catherine Ryan, encore une fois, quand je dis fou, c'est pas genre code ou quoi que ce soit, c'est crazy energy, quoi. Fou, genre
ouais,
le doc dans Retour vers le futur. Et sa manière d'asséner le rythme qu'elle donne, elle est weird, elle est merveilleuse. Je suis un peu amoureux de Catherine Ryan, vraiment au premier degré. Je pense que si je la voyais, je bégayerais un peu. Voilà. J'essaierais vaguement de faire le. Probablement, genre, bizarrement, de name dropper le fait que je fais de la comédie alors qu'elle s'en fout. J'essaierais peut-être de faire vaguement le beau gosse parce que. Et puis. Ça serait ridicule, j'aurais un peu honte. Voilà. J'espère pour elle qu'on se rencontre pas, parce que ce qui se voudrait de la gentillesse serait probablement de la awkwardness.
Je comprends, je pense que je serais le gars awkward qui serait avec toi.
Moi aussi,
je suis awkward, mais je suis moins assumé que lui, donc salut. Entre Bill Burr et Jimmy Carr.
Bill Burr, c'est déjà une légende qui fait des podcasts tout seul drôles. Comme lui, il est exceptionnel depuis des années. Jimmy Carr, c'est une machine à vannes. Je l'ai vu en live, il est très bon. Mais la plus-value de le voir en live versus la télé, il y en a pas, je trouve, pour moi. Pour moi, Jimmy Carr, c'est le Gérard Depardieu de la punchline. C'est-à-dire qu'il est tellement bon tout le temps depuis longtemps que tu oublies à quel point c'est dur de faire une bonne punchline. Comme Philippe Gueluc au final aussi. Mais j'ai pas nécessairement d'affect avec lui. Je le trouve juste excellent. Et donc, il fait rire mon cerveau, puis Bill Burr fait rire mon ventre.
Mais Jimmy Carr, pour l'avoir vu en spectacle, je l'avais trouvé exceptionnel parce que à un moment donné, il y a quelqu'un dans le public, il le vanne, puis il continue son truc normal, il revient dessus plus tard, il le revanne. Il le défonce, mais complètement. Et j'ai trouvé ça très... Enfin, j'ai trouvé très, très fort. Mais il l'a fait à plusieurs moments dans le spectacle. Et c'était très, très bon.
Oh oui, il est top. Il est génialissime. De toute façon,
Mais je veux dire que moi, j'ai du coup ressenti une plus-value à le voir en live, quoi.
Moi, le crowd work m'intéresse pas vraiment quand tu sais comment ça fonctionne, en fait. C'est aussi un tour de magie. Et quand tu connais le tour de magie, ben, il est moins magique, forcément.
Mais moi aussi, je suis... pas fan du tout du crowdwork généralement, mais je trouvais que c'était tellement du bon crowdwork que c'était super drôle, super bien amené et que ça ne perdait pas de rythme au spectacle et ça ajoutait quelque chose, alors que d'habitude je trouve que c'est mieux si t'en fais pas. Là j'étais content qu'il en ait fait, ce qui est rare.
Oui, mais il est merveilleux. Mais apparemment, Kayron est très fort en France et évidemment, Sugar Sammy, un king du crowdwork aussi.
Bah, c'est le suivant dans le choix. Entre Louis-José Hood et Sugar Sammy.
Ah, ben, tu sais quoi? Louis-José Hood, à ma grande surprise, mais parce que Louis-José Hood, c'est... Donc voilà, j'ai un affect avec lui pour une série de raisons, donc. Mais aussi, j'aime sa manière de penser l'humour. Et il est là depuis des années. Et il a fait des choses qui m'ont inspiré aussi. Il a mis en vente la phase B de ses shows. Ça s'appelait le show caché. En gros, c'était les retails de son spectacle qu'il gardait pas pour le DVD. Il y avait, pour son anniversaire, il avait loué une salle. Puis il a fait une captation. Puis c'est un de mes shows préférés à vie. Ça s'appelle ça le show caché, je crois. Et comme il est là depuis peut-être 20-25 ans, il y a un côté qui j'aime bien chez les humoristes, un peu goffy, je veux dire le papa, mais genre Sarah Silverman. Il y a un côté genre la maman du stand-up, quand elle arrive, tu sens tellement toute la bouteille derrière. Le fait qu'ils sont... Ils cherchent pas des nouveaux fans. Ils sont là pour la comédie, vraiment. Et ah tiens, voici ce qui sort de mon laboratoire de recherche. Voici ce qui, je trouve, fait du sens aujourd'hui. Et donc, cette manière d'envisager... voilà. Sugar Sammy, déjà, j'ai eu la chance d'interviewer aussi. C'est une gentillesse, ce gars exceptionnel. C'est une machine à jokes. C'est une machine de charisme. Sur scène, quand il arrive sur scène, c'est lui. C'est une rockstar. Là. Mais je regarderais justement le côté... pour le côté un peu papa, je regarderais Louis-José Hood.
Ben voilà. C'est tout pour la sélection entre les deux humoristes. Je vais reprendre une question qui est inspiré de ton podcast que je reprends à chaque épisode en citant ton podcast, donc je ne t'ai pas complètement tout volé. Je dis à chaque fois la question, je crois que c'est la question sur laquelle tu finissais aussi, c'est qui je devrais inviter dans le prochain épisode du podcast.
Ah oui, c'est vrai, je faisais ça. Ben, j'ai certainement piqué à quelqu'un d'autre, donc well played. Qui tu devrais inviter au prochain numéro du podcast? Si t'es capable d'avoir Talib, évidemment Talib Saritas, parce que c'est...
Ah, je pourrais essayer, c'est vrai que ce serait chouette, j'adore Talib.
et on l'entend nulle part, ce gars, alors qu'il est absolument fascinant. Évidemment, j'ai dit la même chose aux gens du What the Fun, mais Ino JP, qui a les meilleures anecdotes de vie de la Terre.
C'est en contact pour le moment, ça devrait se faire.
OK, ben lui, et puis j'ai dit la même chose aussi aux gens du What the Fun, vous pouvez lui parler de la fois où il est venu prendre une douche chez moi. Et juste vous direz ça et vous verrez s'il a envie de raconter l'anecdote. Une des anecdotes de sa vie.
OK.
Évidemment, PE.
Ah, ben PE, c'est le prochain épisode qui sort.
Ah, ben voilà. Il est là depuis tellement longtemps, PE. Il a beaucoup vécu. C'est un très bon témoin de l'évolution de l'humour en Belgique. À part du fait d'être drôle puis d'avoir une carrière, hein, mais ce que je veux dire, c'est pour discuter avec, il y a vraiment cette plus-value.
À fond. Ben, c'était avant toi le plus long épisode que j'avais fait. C'était avec PE. Mais tu l'as défoncé d'une heure, là.
Si tu lui dis ça, il va vouloir en refaire un épisode de 4 heures.
Et ça me dérange, mais tellement pas. je vais pas te quitter sans te faire un petit peu de promo. Donc, on peut retrouver ton podcast Dan Gagnon tout seul.
Sur Spotify, sur anchor.fm. Et j'ai commencé à uploader les audios sur ma chaîne YouTube. Et ce que j'essaie de faire le plus en ce moment, c'est de choper des subscribers sur YouTube pour pouvoir commencer à mettre de la pub et faire du pognon, en gros. Donc, si vous faites une chose pour moi, et si vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. J'essaie de mettre du matos aussi, quand même, pas mal de trucs. J'ai remonté le sketch sur la neige, donc le tout premier sketch dont j'ai parlé tout à l'heure. Je l'ai remonté et je l'ai publié sur ma chaîne. Il y a tout Rose, le quatrième One Man Show, sur la chaîne aussi. Et là, je suis en train de regarder pour uploader un sketch que j'avais sur l'alcool et les Belges, qui est, je crois, est mon sketch le plus réussi dans ceux que j'ai joué. Et ça a été long parce que je voulais le faire en collaboration avec des gens qui travaillent pour la lutte contre l'alcool au volant. Et donc là, je suis en train de terminer ça. Mais en théorie, au 1er juin, il va être sur la chaîne. Donc, vous allez voir ça aussi. Et évidemment, les épisodes des podcasts, vous pouvez y aller plic-ploc. Il y en a tellement, prendre un sujet qui vous intéresse. Et ça me ferait fort plaisir. Et si vous faites partie des gens qui sont fans de ce que je fais, merci. Et merci de continuer de casser la tête de votre entourage pour essayer de les convaincre que ce que je fais, c'est intéressant. C'est grâce à vous si j'ai 11 Porsche à la maison.
Je pense qu'on a tout dit. Merci à toi d'avoir participé au podcast et merci.
Mais merci beaucoup à toi, merci pour le courage. Est-ce que tu as fait le tour de tes questions?
J'ai fait toutes mes questions.
Et ben voilà, le truc, là, c'est de faire 3 heures de podcast.
C'est ça, c'est de faire une heure de plus et de commencer à travailler un peu plus tard. Pendant que tu à un moment, pendant que tu parlais, j'ai envoyé un message à mes élèves pour leur dire que j'arriverai un petit peu en retard.
Ok, t'es pas en cours, tu donnes cours.
Je donne cours, oui, je donne cours d'anglais et de néerlandais. Ce soir, c'est néerlandais à 18h. Là, il est 18h10, mais c'est pas grave.
Ouais, ben on va te laisser y aller quand même.
Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.